Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Un peu de culture et beaucoup d'amour pour commencer la journée au programme du réveil culturel. Bonjour à toutes et à tous. Voici la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on s'aime aujourd'hui comme on s'aimait dans l'Antiquité, à partir de quelques histoires d'amour réelles ou mythiques de l'Antiquité gréco-romaine? Eva Cantarella nous donne des éléments de réponse dans un passionnant livre qui vient de sortir en librairie, édité par Albin Michel et traduit de l'italien par Patricia Serignano. Eva Cantarella est une éminente spécialiste de l'Antiquité et c'est mon invitée ce matin. Et en deuxième partie, on évoquera un autre amoureux de l'Antiquité, mais lui c'est plutôt Athènes que Rome, Albert Camus. Albert Camus, c'est bientôt le 60e anniversaire de la disparition suite à un accident de voiture du prix Nobel de littérature française le plus célèbre dans le monde. Le magazine littéraire lui consacre tout un dossier pour le conjuguer au présent, ou comment Camus peut encore nous servir pour y voir un peu plus clair dans le brouillard du monde actuel. On en parle donc tout à l'heure avec Aurélie Marciro.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Eva Cantarella.
Bonjour.
Les plus belles histoires d'amour de l'Antiquité, du ciel à la terre, de Zeus à César, c'est édité chez Albin Michel. Alors moi, je vous propose, pour cette petite discussion matinale, de parler d'être plutôt Eros que Philia. Donc plutôt l'amour-passion, l'amour charnel et passionnel, que l'amour de la quiétude et de la raison. Donc on va pas parler d'Ulysse et de Pénélope, plutôt d'Orphée et d'Eurydice, si vous voulez bien. L'idée de votre titre, c'est quoi? C'est de dire que le sentiment amoureux, si nos perceptions ont évolué avec le temps, il reste le même?
Oui, l'idée c'était ça. Je commençais à penser à écrire ce livre, pas pour raconter des histoires, mais les histoires étaient nécessaires pour démontrer ce que je voulais démontrer. Et ce que je voulais démontrer était que l'amour et les émotions, les sentiments, ne sont pas quelque chose qui vit en soi-même. Il vit dans l'histoire comme tout. Et alors aussi l'amour, les émotions changent. Il y a un grand débat entre humanistes, mais aussi à présent les neurosciences, qui discutent si les émotions sont quelque chose qui est dans la nature ou bien qui... On peut... La demande est, la question est, est-ce qu'on peut écrire une histoire des émotions? L'amour, c'est une émotion. Alors ça, c'était
la demande... Les émotions ont évolué avec le temps.
Oui, les émotions ont évolué avec le temps et avec la culture. Et alors, ils changent. L'amour, par exemple, il est différent chez nous et dans l'Antiquité. Mais même dans l'Antiquité, entre la Grèce et Rome, il y a des différences. Et les histoires me sont servies pour démontrer ça.
Alors, quelles sont les différences fondamentales qu'il y a, par exemple, entre deux amoureux de l'Antiquité et deux amoureux d'aujourd'hui?
Peut-être un des sentiments, c'est un sentiment qui existe aujourd'hui et apparemment, c'est pas qu'il n'existait pas dans l'Antiquité, mais il le percevait d'une façon différente, la jalousie. Je ne sais pas si en Italie il y a une chanson, une vieille chanson qui dit « Il n'y a pas d'amour sans jalousie, non c'è amore senza gelosia ». Je ne me souviens plus qui le chantait, c'est une vieille chanson. Et, il disait « Si amour veut dire jalousie, personne ne t'aimera plus que moi ». Ça, je me souviens très bien. Mais les anciens, apparemment, n'étaient pas jaloux comme nous. Alors, est-ce que je peux parler d'une histoire qui...
Celle d'Hector et d'Andromaque, par exemple.
C'est ça.
Il y avait de la jalousie, il y avait de la passion amoureuse qui se traduisait par la jalousie, non?
Oui, mais alors, l'histoire d'Hector et Andromaque est particulière, parce qu'ils sont mariés. D'habitude, entre mari et femme, il n'y a pas un grand amour, il y a plutôt...
L'amour
en Grèce, il n'y a pas l'Eros dont vous parlez, c'est plutôt la filia. Mais
la
dans
filia,
leur cas, c'est tout à fait spécial. C'était un mariage spécial, ils s'aimaient vraiment. Et c'était un grand amour vraiment, mais il était considéré le meilleur de mari. Hector, c'est le père et le mari parfait dans l'idéologie. Mais si on cherche un peu plus dans les textes, on découvre quelque chose d'assez étrange. Parce que après, lorsqu'il meurt, après sa mort, la femme d'Hector est assignée, donnée à Néoptolème. Néoptolème est le fils d'Achille. Elle est vraiment terrible, cruelle. Mais, de quelque façon, il tombe presque amoureux de la femme qui lui a été donnée comme esclave. Mais sa femme, qui était la fille d'Hélène, est jalouse d'elle, de cette nouvelle femme, qui lui a donné aussi un enfant. Hein. Parce que alors le mari pouvait avoir des concubines qui tenaient dans la maison. Non, et alors, Euripide, on lit dans la tragédie d'Euripide, que la femme de Néoptolème essaye de convaincre, est très jalouse. Et Andromaque essaye de la convaincre que la jalousie n'est pas bonne. Et alors, elle lui dit quelque chose de patent. Elle lui dit, tu sais, moi j'ai vécu avec mon mari que j'aime toujours, et je l'aime, mais tu sais pourquoi notre union était parfaite? Elle était parfaite parce que lorsqu'il avait ces moments de distraction et il me conduisait, il conduisait chez moi à la maison, il portait chez moi à la maison ses fils illégitimes, qu'il avait de ses aventures, de des femmes qu'il... Et moi, je lui donnais mon lait, je le nourrissais. Mmh. Et c'est pour ça que notre mariage a été parfait. Alors, on s'est dit, mais elle ne connaissait pas la jalousie, une femme moderne... tuerait probablement son mari qui lui emporte et ne donnerait pas son lait à ses enfants. Dans l'Antiquité, c'était tellement normal tout ça, avoir une concubine, que les femmes ne pouvaient pas être jalouses. C'était la culture qui les habituait à ne pas être jalouses.
Quelle est la différence fondamentale entre l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine, Eva Cantarella, dans ce rapport à l'amour?
Ah, il y a une différence, c'est intéressant, parce qu'on parfois on dit chez les Grecs et les Romains. Les Grecs et les Romains sont très différents dans plusieurs choses, même dans l'amour. Alors, moi je commencerai par dire que, je dois le dire, nous sommes Italiens, nous descendons de Romains, avec beaucoup de médiation, mais il faut le dire, les Romains étaient le prototype de l'homme de macho. Alors, il commence par, ils n'avaient pas de femmes, ils vont faire, vous savez, les pauvres Sabines, les femmes Sabines, non? C'est un rapt, c'est une guerre qu'ils font. Ils prennent toutes les femmes de ses voisins, les Sabines, parce qu'ils n'avaient pas d'hommes, pas de femmes.
Sauf que dans votre livre, Eva Cantarella, et d'ailleurs c'est très intéressant, aussi bien pour les dieux grecs que pour les divinités romaines, vous dites, le viol était très présent.
C'est ça, le viol était très présent. Mais les Romains en particulier, le viol était très présent partout, en Grèce et à Rome. Mais à Rome, vous savez, dans la mentalité des hommes romains, il y avait ceux qui étaient des conquéreurs. C'est pour ça que je vous disais, il était des machos, non?
Oui, des conquérants.
C'était des conquérants. Et si vous lisez toutes les inscriptions qui sont à Pompéi, elles ne sont plus à Pompéi, elles sont recueillies dans tous les textes de toutes les inscriptions de Pompéi. Et vous lisez ce qu'il écrivait sur le mur, parce que les habitants de Pompéi écrivaient beaucoup sur le mur, inscrivaient sur le mur. Et là, c'est une... Les hommes de Pompéi ne font que continuellement parler de leur conquête. Il écrit combien de fois ils sont convaincus. C'est ça que je disais, les Romains étaient des machos très prépotents et très convaincus d'être les seuls qui étaient capables vraiment de séduire des femmes. Pas de séduire, mais de soumettre des femmes. Et c'est vraiment épatant de lire. Il écrit, par exemple, il y avait des bordels à Pompéi, comme dans tout le monde romain, et pas seulement romain. Et alors, il allait au bordel, et après, il écrivait « J'ai fait ça deux fois, trois fois, c'est pas question de se faire... » Non, faire...
Alors, est-ce que ça a changé depuis, pour vous, Eva Cantarella, ou vous voyez dans les hommes italiens d'aujourd'hui la continuation de ce qui a été fait dans... de ce qu'ils ont fait dans l'Antiquité?
Alors, Les hommes dans tout le monde occidental, je ne connais pas le monde oriental, ont changé beaucoup dans les dernières années. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les rapports entre femmes ont changé beaucoup.
Non? En bien, rassurez-vous.
En bien. Mais, oui. Mais il faut que je le dise. J'ai eu un mari italien pendant 50 ans, alors je les aime aussi, les hommes italiens. Mais les hommes italiens sont encore, ils ont encore, jusqu'il y a quelques années, à présent un peu moins, ils ont l'idée qu'ils sont des conquéreurs. Mmh. Oui, ils ont un peu arrêté ça.
Parlons de César, puisque vous consacrez quelques belles pages à César, Eva Cantarella, ce grand séducteur qui pouvait séduire aussi bien les femmes que les hommes d'ailleurs.
Oui, moi, il faut dire que moi aussi, je suis séduite par César. Je l'aime beaucoup. César était aimé par les femmes à Rome. Toutes les femmes étaient folles de lui.
Alors qu'il n'était pas particulièrement beau, hein. C'est ce que vous dites, hein, Eva Cantarella.
Il n'est pas terriblement beau, mais il était fascinant. Il avait apparemment, il était intelligent, il était
puissant.
Puissant, mais même lorsqu'il était jeune, les femmes l'aimaient beaucoup. Non, je dis que je l'aime beaucoup parce que je pense à lui et à Auguste. Non, c'est les deux grands. Il y a une différence énorme. César est plus humain, est plus sincère, parce qu'Auguste était dans ses histoires d'amour un peu. Il voulait se présenter comme un mari parfait. Et là, il avait une femme parfaite, Livia, mais il était un peu comme les autres, il cachait. Tandis que César voulait montrer ce qu'il était. Et il était vraiment un conquérant, mais pas dans le sens mauvais de quel, mais quelqu'un qui séduisait.
Un séducteur, donc.
Et il séducteur. Et il séduisait soit les femmes, soit les hommes. Et il ne le cachait pas, c'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire est que les gens le savaient et il l'aimait aussi pour ça. Alors lorsque il entrait dans les villes qu'il conquérait, ses soldats chantaient et disaient aux habitants de la ville, cachez vos femmes parce que nous venons avec l'adultère. J'ai traduit homosexuel, mais c'est pas juste. C'est un mot qui signifie, parce que c'est pas homosexuel, c'est quelqu'un qui a des rapports aussi avec les gens.
Bisexuel.
Bisexuel, c'est presque quelque chose comme ça. Parce qu'il avait eu, on disait qu'il avait eu une histoire avec le roi de Bithynie lorsqu'il était un jeune homme. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne la cachait pas. Et ça, c'est pour les Grecs et pour les Romains, était terrible. Parce qu'il y a une différence entre les Grecs, les Romains ont peut-être appris à avoir, on dit qu'ils ont appris à avoir des rapports soit avec les hommes, enfin les femmes, qu'avec les hommes par les Grecs. C'est pas vrai, c'est du début de leur histoire. Mais ce qui était absolument prohibé à un homme était d'avoir des rapports comme partenaire passif. Pendant toute sa vie, tandis qu'en Grèce, le jeune garçon, jusqu'à 17 ans, pouvait être l'aimé d'un amant adulte. La pédérastie grecque était comme ça. Lorsqu'il avait, le garçon avait rejoint le 17-18 ans, il pouvait plus être aimé, il devait changer, il devait devenir sexuellement actif, se marier, et il pouvait avoir un jeune enfant.
Voilà.
En Rome, c'est différent, parce que les Romains ne pouvaient jamais être soumis. Parce que les Romains devaient conquérir le monde, c'est l'autre partie de cette idéologie italienne. Il doit conquérir tout, il devait les Romains, les hommes et les femmes. Et lui, César avait été l'aimé de Nicomède, ce qui était terrible pour un homme. Mais il ne le cachait pas, il ne le cachait pas. Et ses soldats se vantaient, on dit comme ça, étaient contents de ça, parce que c'était quelque chose qui le rendait encore plus puissant.
Donc, vous dites, Eva Cantarella, que César a fait avancer la cause LGBT, déjà, à l'époque de l'Antiquité.
Oui, parce que c'est le premier, ça existait même avant, mais on le cachait. Et lui, qui était César, c'est devenu possible.
Les plus belles histoires d'amour de l'Antiquité, c'est édité chez Albin. Michel, vous restez avec nous, Eva Cantarella.
« Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Comment un sentiment aussi complexe que l'amour a-t-il été vécu dans l'Antiquité? Qu'est-ce qui nous reste de ces pratiques-là dans le monde d'aujourd'hui? C'est ce que vous expliquez dans ce livre édité chez Albin Michel, Les plus belles histoires d'amour de l'Antiquité. On n'a pas eu le temps de parler d'Orphée, d'Eurydice, d'Ariane et Thésée, mais de Médée, de Jason, de Zeus aussi, hein, parce qu'il y avait aussi les dieux, les vents, les fleuves. Tout ça, vous le racontez, Eva Cantarella, dans ce livre. Et on peut trouver en librairie un autre livre là, cette fois-ci c'est tout Homère avec de nouvelles traductions de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est un peu la même histoire qui continue pour vous, Eva Cantarella.
Oui, il y a des histoires d'amour dont j'ai parlé, desquelles je parlais ici, qui sont développées dans le bouquin tout Homère magnifique, qui est vraiment un grand. J'ai travaillé à quelques en
oui, c'est un livre collectif,
bien sûr. J'ai fait quelque chose, alors j'étais vraiment frappée par ce bouquin parce que qui a été dirigé par une helléniste qui est Hélène Monsacré. Et dans ce bouquin, il n'y a pas seulement l'Iliade et l'Odyssée, il y a tout. Et il y a, par exemple, aussi des histoires on complète, disons, des histoires d'amour que j'ai racontées dans mon bouquin sur la base seulement d'Homère. Mais on les complète parce que tout Homère, il y a aussi ce qu'on appelle le cycle. Le cycle est le nom qu'on donne à tout ce que ont écrit sur la guerre de Troie jusqu'au 5e siècle avant et qui n'est pas dans l'Iliade et l'Odyssée. Alors il y a deux choses. Par exemple, Ulysse et Pénélope. Dans l'Homère, on ne sait pas qu'il a eu des enfants. Et tandis que dans le cycle, qui est dans le bouquin tout Homère, il y a tout le cycle là-dedans. Et alors, dans le cycle, par les auteurs, grâce aux auteurs du cycle, qui sont toutes ces histoires qui n'étaient pas là, par exemple, tous les retours. Alors, on connaît, grâce au cycle, on sait, par exemple, que Ulysse avait eu des enfants hors du mariage avec Pénélope. C'était normal, on le savait, même Pénélope le savait. Et par le cycle aussi, on connaît par exemple toutes des histoires. Nous avons l'Odyssée, que c'est le retour, le nostos d'Ulysse à toi. Mais dans le cycle, qui est dans tout Homère, il y a le nostos et des autres, parce qu'il y a pas seulement lui qui est revenu chez soi.
L'Antiquité constitue pour Albert Camus un sol fertile, ça on le sait, enfin l'Antiquité, plutôt Athènes que Rome. Son attachement viscéral pour la Grèce est connu et on va en parler puisque Camus va être une fois de plus célébré en janvier. On marquera le 60e anniversaire de sa mort. Bonjour Aurélie Marciro.
Bonjour.
Et vous travaillez pour le magazine littéraire, vous consacrez tout un dossier à Albert Camus pour le conjuguer au présent.
Oui, en fait, Albert Camus, vous l'avez dit, a disparu il y a 60 ans. Mais en fait, il est d'une rare actualité. Alors c'est vrai, on dit souvent ça de nombreux auteurs, mais cette fois, c'est vraiment vrai. La preuve, je suis allée il y a quelques semaines, peut-être vous aussi, au Théâtre du Châtelet, voir la pièce, enfin, Abdelmalik, qui revisite la pièce Les Justes. Cette pièce qui parle des terroristes russes du début du siècle, donc qui pose la question de la violence politique. Et bien, dans cette salle, il y avait vraiment des spectateurs de tous horizons, de tous âges, et ils étaient tous debout à applaudir cette pièce qui est quand même pas non plus forcément très simple d'accès, qui ils en ont fait vraiment un vrai succès populaire. Et Abdelmalik, qui est d'ailleurs auteur d'un livre sur Camus, il le considère un peu comme nous dans ce numéro, comme notre boussole pour ces temps un peu complexes.
Et c'est bien sûr le Camus romancier, mais aussi le Camus dramaturge, essayiste et journaliste.
Oui, parce qu'on a voulu, on consacre un article notamment au Camus jeune journaliste à l'Alger républicain, où on voit que c'est un journaliste à l'ancienne, qui se peint. Il ne veut pas se contenter de commenter, il veut agir, il veut dénoncer, et il continuera donc cette carrière de journaliste, on le sait, plus tard à combat. Mais c'était pas pour lui, c'était pas une fin en soi. Enfin, on lui a dit d'être journaliste parce qu'il pouvait pas faire autre chose à ce moment-là à cause de la maladie. Mais il a été vraiment un grand journaliste, notamment pour dénoncer les conditions de vie à Alger quand il a débuté à l'Alger républicain.
Mais surtout en Kabylie, on se souvient bien sûr de ses textes. Alors, ce qui est incroyable avec Camus, en écoutant quelques-unes de ses interviews, des fois on a l'impression qu'il nous parle de l'actualité, mais vraiment très chaude, c'est-à-dire de ce qui se passe aujourd'hui, par exemple concernant l'Europe, concernant la bipolarisation politique en France et d'une manière générale en Europe. On l'écoute parler et c'est en 1955, c'est fou, écoutez-le.
L'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins.
Voilà, et c'était en 1955, Aurélie Marciro.
Oui, c'est vrai qu'on
entre la servitude et la folie, on est vraiment pas loin de la bipolarisation telle qu'elle s'impose à nous aujourd'hui.
Et oui, justement, et c'est vrai qu'à l'époque, il a été très critiqué, on l'a qualifié notamment de philosophe de classe terminale, c'est Jean-Jacques Brochet qui l'avait appelé comme ça, il faut dire qu'on était en pleine dispute Sartre-Aron, et dans le dossier, vous pouvez lire Marine Maezo, qui est prof de philo et qui explique qu'il y a une grosse incompréhension autour de Camus. Et Camus, effectivement, il lui-même ne se considérait pas comme un philosophe parce qu'il était contre les systèmes de pensée. Il pensait qu'il fallait être plus équilibré. Que, en fait, ce qui était important, ce qu'il disait d'ailleurs, c'est: je ne crois pas au système. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il faut se conduire, et plus précisément comment on peut se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni en la raison. Et on se dit que c'est vraiment tout à fait d'actualité comme réflexion, notamment sa pensée du midi qui mérite d'être relue à l'heure où effectivement le monde gronde, on le voit chaque matin, de révolte.
Voilà, et puis il y a aussi le Camus romancé. Alors ça, en revanche, il n'y a pas une période où il n'est pas bon de lire Albert Camus.
Oui, alors on a beaucoup critiqué son écriture en disant que c'était une écriture blanche. Et alors, ce qu'on voit dans le dossier, c'est une professeure de littérature qui s'appelle Agnès Piquel qui nous l'explique, qu'en fait, il y a toute une variation de l'écriture de Camus, et qu'il ne faut pas s'arrêter à l'écriture, c'est vrai, assez sèche, minimaliste, percutante du début de l'étranger, et qu'il faut aller plus loin. Et que, par exemple, on a une écriture très libérée, très avec des gammes très variées, notamment dans Le Premier Homme, qui est, vous le savez, le livre qui restera inachevé d'Albert Camus, qu'on a retrouvé dans la voiture.
Et puis l'Antiquité, puisque nous sommes avec Eva Cantarella, c'était aussi présent dans l'œuvre de Camus, mais là, l'Antiquité plutôt d'Athènes, hein, sous le soleil.
Oui, c'est un homme de la Méditerranée, effectivement, Albert Camus, on voit le soleil qui est omniprésent, notamment dans l'étranger, enfin cette vision troublée du soleil. Et ce qui est étonnant chez Camus, c'est que de son vivant, il était loin de faire l'unanimité. Il disait, les philosophes communistes disent que je suis un philosophe réactionnaire, les réactionnaires disent que je suis un philosophe communiste. Enfin, il disait, je suis un peu perdu et j'ai décidé de continuer à être ce que je peux être. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Benoît Hamon le citait dans ses discours pendant la campagne, que Nicolas Sarkozy a voulu le panthéoniser et que Michel Onfray s'en réclame. Donc il doit y avoir vraiment quelque chose de juste chez Camus.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Tout Homer et les plus belles histoires d'amour de l'Antiquité d'Eva Cantarella, édité chez Albin Michel, on peut les trouver maintenant en librairie. Merci d'être venu, Eva Cantarella.
Merci à vous.
Et puis tout un dossier consacré à Camus, à quelques semaines du 60e anniversaire de sa disparition. C'est dans le magazine littéraire. Merci Aurélie Marciro d'être passée ce matin.
Merci à vous.